Vous écoutez Europe 1, il est 22h. L'heure du journal, Sophie Echen.
C'est vrai que découvrir que le problème viendrait d'un entretien ou d'une réparation d'un collecteur d'eau usée, c'est complètement inédit.
La ville de Paris pointée du doigt par les experts presque un an après l'explosion de la rue de Trévise. 4 morts, 66 blessés. Un drame qui aurait pu être évité, disent-ils. Paris qui réagit et contre-attaque. La mairie commande un audit sur ce sinistre. La sécurité est renforcée pour demain, soirée du réveillon. À Strasbourg, la police lance la chasse aux pétards.
148 pièces d'artifice avec des projections à 50 mètres. Quoi. Pour moi, des enfants avec ça, c'est presque criminel. Quoi.
L'année dernière, 9 personnes avaient été blessées à cause des pétards. Le mea culpa du directeur de Libération, en pleine polémique autour de l'écrivain Gabriel Matzneff, Laurent Geoffrin revient sur le soutien de son journal à la dépénalisation de la pédophilie dans les années 70.
On a commis une erreur grave. À l'époque, hein. En tout cas, on a eu tort de ne pas prendre nos distances tout de suite.
Qui perd des habitants, qui en gagne ? L'INSEE dévoile ses statistiques région par région. C'est une opération inédite. En Ukraine, Kiev et les séparatistes pro-russes ont échangé environ 200 prisonniers. Une nouvelle étape dans la désescalade avec Moscou dans ce conflit armé. Et puis, fin d'année oblige, c'est l'heure des bilans. On verra ce qui a bien et moins bien marché sur le petit et le grand écran à la fin de ce journal. Après ce journal, la météo bien sûr, et puis on fera un point sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Et enfin, pas d'interview éco ce soir, mais l'invité culture de Sébastien Krebs. Sébastien reçoit Philippe Châtel, l'auteur et compositeur du célèbre conte musical Émilie Jolie, et la jeune Gloria qui incarne la nouvelle héroïne. 40 ans après sa création, le spectacle revient sur les planches de l'Olympia jusqu'au week-end prochain.
Europe 1.
Mais tout d'abord, on vient de l'apprendre, Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, se trouve ce soir à Beyrouth, au Liban, en violation de son assignation en résidence à Tokyo. L'entourage de Carlos Ghosn confie à Europe 1 qu'il ne souhaite pas se soustraire à la justice, mais qu'il estime que ses chances d'avoir un procès équitable au Japon étaient quasi nulles. Pour l'instant, lui-même ne souhaite pas s'exprimer avant les autorités japonaises. C'est ce que nous confirment ses proches, joints par Europe 1 dans la soirée. Presque un an après l'explosion de la rue de Trévise à Paris, les experts pointent dans un rapport des manquements de la ville, notamment concernant la rupture d'une canalisation de gaz qui a causé le drame. Bilan, 4 morts et 66 blessés. Vous vous êtes rendu sur place ce soir, Jean-Jacques Herry.
Oui, exactement. Dans un quartier toujours marqué par la tragédie, un an après, avec ses nouvelles responsabilités pointées du doigt, celle de la mairie et celle d'une entreprise de BTP qui aurait sous-estimé l'amplitude des travaux de voirie à réaliser pour réparer le trottoir et éviter son affaissement. Affaissement responsable de la fuite de gaz et de l'explosion. Eh bien, il régnait cet après-midi rue de Trévise une ambiance un peu particulière, mélange de fatalisme et de colère mesurée. Pierre habite dans un immeuble voisin.
C'est un peu la surprise parce que quand on pense gaz, on pense GRDF. On savait qu'il y avait une piste sérieuse qui était creusée de ce point de vue-là, d'une canalisation qui était fendue. C'est vrai que découvrir que le problème viendrait d'un entretien ou d'une réparation d'un collecteur d'eau usée, c'est complètement inédit. On avait entendu qu'il y avait peut-être des sujets autour de la voirie et la mairie de Paris, mais ça faisait longtemps que cette thèse-là n'était plus remontée à la surface. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie surprise par rapport au rapport qui vient de sortir.
Et dans le quartier, ce soir, on espère surtout que ces nouveaux éléments vont faire avancer le dossier rue de Trévise. Plusieurs bâtiments de la rue sont encore inhabitables, interdits d'accès aux habitants, alors que des palissades bloquent toujours l'entrée de la rue, un an après.
Jean-Jacques Herry, et justement la ville de Paris s'exprime ce soir, une déclaration, mais pas de questions. Ivoa Alavoine est la directrice des affaires juridiques.
La ville participera activement à la manifestation de la vérité dans l'intérêt des victimes et en tirera toutes les conséquences nécessaires. La ville sera également partie prenante de l'expertise civile qui sera ordonnée le 15 janvier 2020 et se trouvera toujours aux côtés des victimes et de leurs familles en leur fournissant toute l'aide nécessaire, notamment en matière de relogement, comme c'est le cas depuis le dramatique accident survenu le 12 janvier dernier.
La réaction de la mairie de Paris ce soir au micro Europe 1 d'Hélène Terzian a noté que la municipalité mandate un audit sur les procédures d'intervention et de contrôle de l'espace public. 250 à 300 000 personnes attendues sur les Champs-Élysées demain soir pour la Saint-Sylvestre. Christophe Castaner annonce un renforcement du dispositif de sécurité. 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France. Mobilisation générale au CHU de Strasbourg également à cause des pétards responsables d'accidents graves, 9 blessés l'année dernière. Ils sont pourtant interdits à la vente dans toute la région pendant le mois de décembre et jusqu'au 5 janvier, mais cela n'empêche pas certains jeunes de faire un détour chez leurs voisins allemands où les pétards sont en vente libre. Charlotte Bechler, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg et cette année encore, la police veille jusque dans les transports.
Ils sont une quinzaine de policiers postés à l'arrêt de tram frontalier. Un seul mot d'ordre, débusquer les Strasbourgeois qui ont traversé le pont pour s'acheter des pétards.
Le sac à côté, là, s'il vous plaît.
Vous savez pourquoi on vous contrôle, hein ? Parce que vous êtes dans le tram avec des artifices, vous savez que c'est interdit, quoi.
À Strasbourg, c'est double peine, interdiction d'importer des pétards d'Allemagne, mais aussi d'en avoir dans les transports en commun. Mohamed, 15 ans, s'est fait arrêter. Il avait dans son cabas des fusées et des mortiers.
Bon, là, ils ont chopé qu'une petite partie, mais ouais, j'ai pensé que ça passerait. Je suis au courant que c'était interdit, voilà.
Aujourd'hui, Mohamed repart sans amende, mais aussi sans ses pétards. Pour le commissaire Boli, la confiscation des biens, c'est déjà une punition.
Le but du jeu, ce n'est pas de prendre de l'argent aux gens. Hein. Souvent, les gens dépensent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros. Le fait de voir cet argent s'envoler en fumée, mais d'une autre façon que celle qu'ils avaient prévue, je pense que la leçon est suffisante, donc on ne va pas en plus rajouter des amendes.
En une heure à peine, une des policières a saisi tout type de pétards, des petits calibres, mais aussi des artifices impressionnants. Celui-ci avait été acheté par un père pour son fils.
148 pièces d'artifices avec des projections à 50 mètres, quoi. Pour moi, des enfants avec ça, c'est presque criminel, quoi.
Les jeunes sont d'ailleurs les premières cibles des dangers des pétards. L'an dernier, 39 mineurs ont été blessés, 9 avaient moins de 11 ans.
Charlotte Bechler, correspondante à Strasbourg pour Europe 1. L'année dernière, 537 kilos de pétards avaient été saisis. La police également a mobilisé sur les routes pour des contrôles. La nuit du 31 est l'une des plus meurtrières, avec en moyenne 15 à 20 décès au volant comptabilisés au cours des dernières années. Et puis pour le nouvel an, pas de trêve pour les cheminots en grève contre la réforme des retraites. 27e jour de mobilisation demain. Et un trafic toujours très perturbé avec un TGV sur deux en moyenne, un Ouigo sur trois, un Intercité sur cinq et la moitié des TER. À Paris, la RATP reste mobilisée. Elle aussi, deux lignes seront totalement fermées demain, la 13 et la 7 bis. La 1 et la 14 fonctionnent normalement, les 12 autres de manière partielle.
Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Echen.
En pleine polémique autour de l'écrivain Gabriel Matzneff, Bernard Pivot regrette, je cite, de n'avoir pas eu les mots qu'il fallait. L'ancien animateur d'Apostrophe se confie ce soir dans le JDD. Il est accusé de complaisance avec Gabriel Matzneff, qui affichait ouvertement son attirance sexuelle pour les mineurs sur le plateau de son émission. L'affaire fait grand bruit depuis ces derniers jours. Le journal Libération y a consacré sa une aujourd'hui. Son directeur Laurent Geoffrin signe également une tribune. Il y revient sur le soutien de son journal à la dépénalisation de la pédophilie dans les années 70.
On a commis une erreur grave à l'époque, hein, dont on s'est expliqué d'ailleurs il y a longtemps, il y a 20 ans maintenant. Mais c'est vrai que comme cette affaire est ressortie à la faveur du cas Matzneff, il fallait mettre les choses au point sur ce qu'a fait ou pas fait le journal. Le journal, c'est l'enfant de 68, donc l'idéologie 68 était une idéologie largement libertaire, très positive à beaucoup d'égards, hein, puisqu'il s'agissait de lutter pour l'égalité homme-femme, de lutter pour la dépénalisation de l'homosexualité, des choses comme ça. Et puis, il y a eu cet excès, ce dérapage, où il y avait un petit groupe de gens, d'intellectuels, et qui demandaient la dépénalisation de la pédophilie, en fait. Et c'est vrai qu'on a publié les tribunes dans ce sens-là. Mais on n'est pas les seuls, Le Monde aussi en a publié. Et on a eu tort. En tout cas, on a eu tort de ne pas prendre nos distances tout de suite. C'était une chose absolument illégale et moralement inacceptable.
Le directeur de Libération, Laurent Geoffrin, il répondait à Nicolas Carreau pour Europe 1. Quelles sont les régions françaises les plus peuplées ? L'INSEE dévoile les derniers chiffres du recensement, région par région, le tout sur la période 2012-2017. Dans cette étude, Carole Ferry, on découvre les régions qui gagnent des habitants et celles qui en perdent.
Oui, alors on va commencer par les régions qui gagnent le plus d'habitants. En tête, vous avez la Corse, avec une croissance de 1,2% par an. Sur la deuxième marche du podium, l'Occitanie, avec Toulouse notamment, qui attire beaucoup. Et puis médaille de bronze pour les Pays de la Loire. Et là, c'est Nantes, qui ces dernières années a vraiment été un aspirateur à population. À l'inverse, vous avez les régions qui perdent le plus d'habitants. La seule à perdre vraiment, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez également deux régions qui ne perdent pas, mais qui ne gagnent pas vraiment non plus, le Grand Est et la Normandie. Puis alors, vous avez un phénomène très intéressant à noter, c'est que la ville de Paris perd aujourd'hui plus d'habitants qu'elle n'en gagne. Vous avez de moins en moins de résidences principales, de plus en plus de résidences secondaires mises en location sur des plateformes comme Airbnb. C'est un phénomène qui a déjà été identifié, bien sûr. Mais disons que là, ce sont les chiffres du très sérieux Institut National de la Statistique qui le disent. Paris est en train de se vider de ses habitants.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. L'aéroport de Toulouse-Blagnac repasse sous pavillon français. Aujourd'hui, la société chinoise Casil Europe a revendu sa part, à savoir la moitié du capital au groupe Eiffage, montant de la transaction près de 500 millions d'euros. Le géant du BTP français devient ainsi le nouvel exploitant de l'aéroport toulousain. Il était déjà concessionnaire de celui de Lille. C'est une première depuis 2017 en Ukraine. Le président sur le tarmac de l'aéroport de Kiev en train d'accueillir ses compatriotes. Il s'agit de 200 prisonniers échangés entre la capitale et les séparatistes pro-russes de l'est du pays. Jean-Sébastien Soldaini, est-ce qu'on assiste à une désescalade avec Moscou dans ce conflit armé ?
En tout cas, sur le plan diplomatique, c'est une avancée. Un échange aussi massif, 200 prisonniers, c'est inédit. Et c'est un nouveau jalon après des retraits de troupes sur certains secteurs du front. C'est le résultat notamment de la médiation assurée par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Mais sur le plan intérieur, c'est différent pour le président ukrainien. Alors évidemment, échanger près de 200 prisonniers, ça va dans le bon sens. Mais sur ces 200 prisonniers, 5 font débat, rendus aux séparatistes. 5 policiers accusés par Kiev d'avoir tiré sur les manifestants du soulèvement de Maïdan en 2014. Leur procès était en cours et cela ne plaît pas à une partie de l'opinion, notamment à Oleg, présent sur la place de l'indépendance de Kiev en février 2014.
J'étais là tous les jours et j'ai vu ces policiers qui tuaient les gens avec les Kalachnikov. Donc demain, je fais un acte terroriste en faveur de la Russie. Et après-demain, M. Poutine va dire « Ah tiens, on doit récupérer ce brave monsieur parce qu'il agit de notre côté ». Ça néglige toutes les valeurs pour lesquelles les gens se sont battus sur Maïdan, au Donbass, ça me dépasse.
En faisant cela, Volodymyr Zelensky prend le risque de voir son opinion basculer. Lui qui a vu sa cote de popularité chuter de 73 à 52% en seulement 6 mois de pouvoir.
Les explications de Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. L'affaire avait provoqué un émoi planétaire. Ces bébés OGM nés en Chine l'année dernière, deux nourrissons nés des expériences d'un apprenti sorcier. Un chercheur, Virginie Riva, qui vient finalement d'être condamné à 3 ans de prison.
Oui, une peine lourde pour un scandale mondial. Novembre 2018, He Jianghui, chercheur chinois, annonce en conférence de presse à Hong Kong avoir mis au monde deux jumelles à l'ADN modifié, et ce pour les rendre résistantes au virus du sida alors que leur père est infecté. Sa technique, l'utilisation de ciseaux génétiques qui permet de remplacer des parties du génome. Stupeur planétaire, sous pression internationale, le gouvernement chinois ordonne alors la suspension des recherches et place le chercheur sous enquête policière. Entre-temps, un autre bébé à l'ADN modifié aurait même été conçu, selon l'agence de presse officielle du régime. L'enquête aboutit à un procès tenu à huis clos et à la condamnation aujourd'hui même du chercheur. Le délit, avoir illégalement procédé à la manipulation génétique d'embryons à des fins de reproduction. Sa peine s'élève à 3 ans de prison, assortie d'une amende de 3 millions de yuan, soit à peu près 400 000 euros. Deux autres personnes du même institut médical ont également été condamnées à des peines de prison. La technologie, pas suffisamment sûre en l'état des connaissances, pourrait entraîner d'autres mutations sur les jumelles, transmissibles à leurs enfants, mais on ne sait aujourd'hui rien de ce qu'elles sont devenues.
Virginie Riva. La fin de l'année approche, c'est le moment des bilans. Du côté des salles obscures d'abord, c'est une excellente année qui s'achève pour le cinéma en France avec 213 millions d'entrées. Le deuxième meilleur score depuis plus d'un demi-siècle. Et les productions hollywoodiennes raflent la mise. Parmi les films les plus vus, 3 Disney, Avengers Endgame, Le Roi Lion ou encore La Reine des Neiges 2. Le plus gros succès français cette année, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui cumule 6,7 millions d'entrées. Et puis du côté du petit écran, quelles sont les émissions télé qui ont marché, les primes qui ont fait un carton, les rendez-vous sportifs qui ont rassemblé? Médiamétrie a décortiqué les audiences. Clément Le Saffre, une chaîne arrive tout en haut du podium.
Oui, et c'est TF1 évidemment qui truste 85 des 100 meilleures audiences de l'année. La une a été portée par la Coupe du Monde féminine de football avec un pic à 10,7 millions de téléspectateurs pour le quart de finale France-États-Unis. Gros succès également côté divertissement pour la une avec l'émission Mask Singer et surtout avec ça.
Bienvenue au bazar de la charité.
Tout est brûlé en une demi-heure.
Pas une centaine de victimes. Que des femmes de la haute société leur bonne. Aucun homme.
Vous aurez peut-être connu le bazar de la charité. Hein. La série originale de TF1 a toujours réuni plus de 7 millions de personnes par épisode. Mais tout n'est pas rose non plus pour TF1. Avec 19,5% de part d'audience, eh bien, la une réalise le pire score de son histoire. La chaîne privée perd 0,7 points en un an. Alors pas de quoi paniquer. Pour autant, son dauphin, France 2, reste très loin derrière. Avec 13,9% de part d'audience, la chaîne publique est tout de même en hausse de 0,4 points. France 3 complète le podium juste devant M6. Enfin, un petit mot sur les chaînes d'info. BFM TV continue son écrasante domination avec 2,3% de part d'audience. C'est plus, rendez-vous compte, que l'audience cumulée de ses trois concurrentes, LCI, CNews et France Info.
Les audiences télé de 2019 avec Clément Le Saffre. On jette un œil sur la couleur du ciel avec vous, Valérie Darmon. Demain, la météo sera exactement la même qu'aujourd'hui.
Et bien sur la moitié est de la France, après la dissipation des brouillards parfois givrants, la journée s'annonce largement ensoleillée, hormis de la vallée du Rhône au Val-de-Saône, ainsi qu'en plaine d'Alsace où la grisaille persistera dans l'après-midi. Sur le pourtour méditerranéen, les nuages bas seront nombreux aussi autour du golfe du Lion le matin, avant de se décaler vers PACA dans l'après-midi. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que de la Bretagne au centre jusqu'au sud du bassin parisien, Poitou-Charentes, Aquitaine, autour de la vallée de la Garonne, les nuages bas où les brouillards givrants seront très nombreux là aussi et ils auront du mal à se dissiper. Arrivée de petites pluies fines à noter, faibles et rares, de la Bretagne jusqu'au piémont pyrénéen sur la péninsule bretonne dans la soirée. Et il fera froid encore ce mardi matin entre moins 6 à Charleville et 6 à Perpignan pour les minimales, entre 3 à Alençon et 15 à Marseille pour les maximales.
Valérie Darmon pour la météo. Europe 1. Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité de Sébastien Krebs. Restez avec nous, Philippe Châtel et la jeune Gloria des Kids United. Nous parlerons du nouveau spectacle musical Émilie Joly. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Echen.
Comme promis, il est l'heure de faire un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Wall Street clôture en baisse ce soir.
Oui, un petit coup de fatigue avant la fin de l'année, mais des indices qui restent tout de même proches de leur record historique. Le Dow Jones perd 0,64%, 28 462 points. Le Nasdaq, lui, cède 0,67% à 8 946 points. Pas de prise de risque malgré de bonnes nouvelles dans le dossier commercial. L'accord entre Pékin et Washington semble vraiment imminent. Le vice-premier ministre chinois serait attendu cette semaine à Washington pour le signer. La Maison-Blanche aussi affiche son optimisme. Du côté des valeurs, Amazon subit des prises de bénéfices et perd 1,2%. Repli aussi pour les autres technologiques. IBM perd 1,9%, Microsoft moins 0,8%. En revanche, Apple gagne encore 0,6%, Apple qui évolue à ses plus hauts niveaux historiques. Le cours du baril de brut léger américain, 7,06%. On est à 61,62$ sur le marché new-yorkais. Et l'euro grimpe de 0,2% et s'échange contre 1,12$.
Et le CAC 40 aussi termine en baisse ce soir. Il repasse sous le seuil des 6000 points.
Oui, le marché parisien lui aussi cède aux prises de profit après un très bon bilan cette année. Donc un net repli ce soir, moins 0,91%. On est à 5982 points, c'est du rouge notamment pour les valeurs qui ont beaucoup monté. ST Microelectronics par exemple perd 1,5%, c'est l'action qui a enregistré la plus forte progression depuis le 1er janvier, donc des petite prise de bénéfices. Même scénario pour Airbus Group qui perd plus de 2%, mais le titre de l'avionneur a bondi de 55% depuis le 1er janvier.
Et la séance a été très compliquée pour Essilor Luxottica.
Oui, le géant de l'optique a découvert une fraude financière au sein d'une de ses usines en Thaïlande. L'impact financier est estimé à un maximum de 190 millions d'euros et il sera comptabilisé dans le résultat opérationnel 2019. Le titre Essilor perd 3% ce soir. C'est du vert en revanche pour CGG. Le groupe parapétrolier s'attend à un flux de trésorerie net positif et supérieur à ses attentes cette année. De quoi faire monter le titre de 3,9%. Les marchés européens marquent une pause ce soir. À Francfort, le DAX a reculé de 0,7% pour la dernière séance de l'année en Allemagne. Moins 0,7% pour Londres. Madrid perd 0,9%. Milan moins 1,1%. Bruxelles moins 0,7%. Et à Paris, le CAC 40 perd 0,9% à 5982 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Pendant les vacances, pas d'écho, mais l'invité culture de Sébastien Krebs. Écoutez cette mélodie qui devrait rappeler à certains leur plus tendre enfance.
Je m'appelle Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly.
Bonsoir Philippe Châtel.
Bonsoir.
Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci d'être avec nous ce soir. Cette chanson d'Émilie Joly, elle a bercé plusieurs générations d'enfants déjà. Hein. La mienne d'ailleurs par exemple. Émilie Joly, ce conte musical, vous l'avez écrit et composé en 1979, il y a donc 40 ans.
Exactement.
Et il revient sur scène cette fois en spectacle, comédie musicale à l'Olympia.
Oui.
Quelle belle scène pour ce spectacle.
Tu voudrais partir.
partir avec nous.
C'est jusqu'au 5 janvier. Et avec nous sur scène, dans le rôle d'Emily, eh bien c'est Gloria qui est avec nous. Bonsoir Gloria.
Bonsoir.
12 ans, déjà star du jeune public. Si vous nous écoutez, que vous ne connaissez pas Gloria, demandez à vos enfants, ils la connaissent probablement grâce au groupe Kids United. Merci d'être avec nous, Gloria. Pourquoi il est si particulier ce spectacle, Philippe Châtel ?
Je pense qu'il est hors du temps en fait. Les enfants d'hier sont les parents d'aujourd'hui. Et donc ils transmettent leur goût des chansons génération après génération. Quoi.
C'est un spectacle que vous aviez écrit à l'origine pour votre propre fille, c'est ça ?
Oui, elle avait 3 ans et elle m'avait demandé une chanson de lapin. Alors j'ai fait une chanson de lapin, puis après une chanson de hérisson. Puis je me suis pris au jeu, puis j'ai écrit le conte en entier.
Gloria, on dit un mot de l'histoire ? L'histoire d'Émilie Joly ?
Bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui lit un livre et qui rentre un peu dans le livre. Et elle rencontre plein de personnages différents, bah, des animaux, qui l'aident à tourner toutes les pages. Pour moi, c'est l'histoire, je l'ai comprise comme ça. C'est une petite fille qui vit des aventures extraordinaires.
Toi, tu l'as découvert comment, ce spectacle ?
Alors, de base, j'ai regardé le dessin animé quand j'étais toute petite. C'est ma maman qui me l'a montré. Et puis, elle m'a montré aussi des vidéos, des enregistrements des autres comédiennes qui faisaient la comédie musicale. Puis, c'est comme ça que j'ai découvert et j'ai trouvé ça fantastique. Maintenant, de pouvoir jouer ce rôle, c'est vraiment, je ne pensais pas du tout, c'est vraiment incroyable et je suis très très fière de pouvoir jouer le rôle d'Émilie Joly.
Alors toi, tu as baigné dans la musique dès ton enfance puisque ta maman tient une école de chant, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et elle a posté récemment une vidéo de toi qui chante Émilie Joly. On va l'écouter parce que tu étais très jeune.
Je m'appelle Émilie Joly.
Ah ouais.
Je m'appelle
2 ans. À 2 ans, avec un micro dans le salon.
Et elle chante juste en plus.
Mais oui, elle est incroyable. Comment vous l'avez choisie ? Comment vous l'avez rencontrée, Gloria ? Philippe Châtel ?
Bah, par audition. On a fait des auditions, on a vu beaucoup d'enfants. Et Gloria a été formidable.
Les tournées, les concerts, cette vie avec les Kids United, c'est une vie un peu surprenante quand on a 12 ans.
Bah, c'est vrai que c'est une vie un peu surprenante. J'ai pas la même vie que les autres enfants. Là, je viens juste de rentrer au collège. Je comprends que c'est totalement différent. Le vendredi soir, je pars, je fais des concerts ou des promos. Et puis, c'est mon monde, en fait.
Et la scène de l'Olympia jusqu'au 5 janvier, donc avec ce spectacle. Philippe Châtel, Émilie Joly, cette fois, il y a des nouveautés là sur scène. Il y a un orchestre en live, par exemple.
Oui. C'était très important pour moi que la musique soit jouée en direct.
Les costumes, les danseurs. Vous êtes combien d'artistes sur scène ?
Mais il y a 6 danseuses, et il doit y avoir 6 ou 7 comédiens.
On va revenir avec Théophile Cossa sur ces 40 ans d'Émilie Joly, parce que Théo, vous avez fouillé dans les archives, énormément de grands artistes qui ont chanté Émilie Joly.
Ah, il y en a un paquet, ça Sébastien. On va faire un petit jeu, si vous voulez bien, un petit blind test. Hein, vous connaissez, c'est très facile reconnaître les stars qui ont chanté dans le conte d'Émilie Joly. Vous l'avez dit, il y en a beaucoup. On commence avec un facile, je suis sûr que vous allez le reconnaître.
T'appelles Émilie Joly.
Ah bah oui. Moi, c'est celle que j'écoutais quand j'étais petit.
Julien Clerc, évidemment, ouais. Évidemment, on l'a reconnu dans sa version 1979, incontournable. On monte la difficulté d'un cran.
Qu'est-ce qu'on va dire de moi au poulailler quand je reviendrai sans un mot ? On dira quel paresseux.
Vous trouvez ou pas ?
Alors là, j'ai pas trouvé.
Les Inséparables, Alain Souchon et Laurent Voulzy,
oui,
pour la
d'accord.
Chanson du coq et de l'âne, version 1979 toujours. Et puis Émilie Joly, ce n'est pas que des chanteurs de variété, c'est ça qui est formidable. Hein. Toutes les stars, tous styles confondus, sont prêtés au jeu, même nos rockers préférés.
Tu t'appelles Émilie Joly.
Johnny Hallyday, oui, bien sûr. Johnny, la chanson d'Émilie et du grand oiseau, reprise par l'idole des jeunes en 1997 cette fois. Un autre rocker, tiens, qu'on adore aussi. Ça vous dit quelque chose, ça ? Alain Bachung.
Alain Bachung.
Qui reprend la chanson du loup dans la version de 1997. Le loup, ça lui va si bien. Allez, on termine avec un dernier. On va voir si vous trouvez. C'est une artiste, cette fois.
Je suis vêtue de robe noire. Je ne peux vivre.
Ah, ça y est, j'ai reconnu. Axel Red.
Axel Red qui incarne la sorcière, la chanson de la sorcière, version 97, bien sûr.
Et alors, il y en a d'autres, hein. Georges Brassens, Henri Salvador, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, Morane, Zazie, Florent Pagny, je ne vais même pas tous les citer. Tous les artistes français ont chanté à un moment ou à un autre.
Ça a été un plaisir formidable pour moi.
Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont tous. Ils ont tous dit oui ?
Bah écoutez, je suis allé les voir les uns après les autres. Je leur ai chanté tout le conte. Je leur ai dit quelle chanson je leur destinais et ils m'ont tous dit oui.
Alors ils n'ont pas tous chanté sur scène, parfois c'était sur des albums.
Oui.
Combien d'albums, combien de versions différentes d'Émilie Jolie?
Avec celle du spectacle, il y en a trois.
Ça en fait trois, oui. Avec un certain nombre de personnages à chaque fois, d'où le nombre d'artistes qui ont
exactement
contribué. À quel âge on vient voir ce spectacle, Philippe Châtel, sur scène?
Il y a tous les âges, vraiment, c'est très famille, quoi. Ça commence à 4 ans, et il y a aussi des grands-mères, il y a beaucoup d'adolescentes, et c'est un spectacle typiquement familial, quoi.
On peut aller le voir en famille. C'est sur la scène de l'Olympia. Combien de disques ont été vendus au total à travers ces 40 ans d'Émilie Jolie?
À peu près 2 millions.
Un succès incroyable. Et alors tout le monde joue à un moment Émilie Jolie. Il y a des spectacles qui se montent avec vos chansons.
Il y a beaucoup de spectacles amateurs ou semi-amateurs. Des conservatoires de danse, des conservatoires municipaux de musique. Il y en a à peu près une centaine par an, quoi.
Une centaine par an. 2500 spectacles d'Émilie Jolie comptabilisés à travers le temps, ouais. Avec ces chansons qui finalement n'ont pas pris une ride. Elles sont indémodables parce que c'est un conte. Qu'est-ce qui fait que le succès n'a pas changé? Vous les avez presque pas changés. On a écouté tout à l'heure la version de Gloria. C'est pratiquement la même que celle de Julien Clerc en 79.
Oui.
Il n'y a pas besoin de les changer.
On n'a pas voulu sacrifier à la mode et faire du rap ou des choses comme ça, parce que ça n'aurait pas été, quoi. Je pense que les gens aiment bien retrouver ce qu'ils connaissent. Et les parents qui emmènent leurs enfants ont un souvenir de, quand ils étaient petits, des arrangements, etc. Donc il ne fallait pas changer, quoi.
Il ne fallait pas changer. En tout cas, ils pourront retrouver donc ces chansons sur la scène de l'Olympia. C'est jusqu'au 5 janvier, avec des horaires l'après-midi, j'imagine, pour pouvoir emmener les enfants.
Oui, c'est ça, ouais.
Vous irez ailleurs en France ensuite? C'est prévu?
Il y a une tournée prévue en octobre prochain.
Voilà, prévue à l'automne prochain. Merci beaucoup Philippe Châtel d'être venu ce soir sur Europe 1. Merci Gloria.
Merci.
Bonne chance donc pour la scène à travers ces vacances de Noël. Je signale aussi l'album de Kids United, la nouvelle génération qui est sorti, l'hymne de la vie, et avec des ventes qui sont en partie en tout cas au profit de l'UNICEF, puisque 1 euro est reversé pour chaque album vendu. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Et merci aussi à Théophile Cossa qui était avec nous. Bonne soirée.
Merci.
Et merci à vous, Sébastien Krebs.
Sophie Etchaine sur Europe 1.
Tout de suite, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. On parlait des bilans tout à l'heure. 31 décembre oblige, Libération fait le sien. Le journal vous propose le meilleur de son site de vérification d'informations, Check News. À lire demain, vos questions les plus posées, les plus drôles et les plus insolubles. Dans le Figaro, pas de bilan, mais une projection. Au contraire, le quotidien consacre sa une à ces mots nouveaux qui racontent la décennie, celle dans laquelle nous nous apprêtons à entrer. Pour ne citer que smartphone, genré, streaming, selfie ou encore ubérisation. Des termes passés dans le langage courant, notamment grâce à l'émergence du numérique, mais aussi à cause des problèmes écologiques et climatiques. À la une des Échos, la nouvelle SNCF au péril de la grève. Le groupe public passe au statut de société anonyme au 1er janvier et cesse les embauches au statut. Une nouvelle étape entamée dans les pires conditions avec le mouvement contre la réforme des retraites. Retraite des riches, démontage d'une intox, titre l'Opinion. Après Thomas Piketty qui a dénoncé l'arnaque de la réforme des retraites début décembre, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon et de la CGT de distiller l'idée que les cadres supérieurs seraient les grands gagnants de cette réforme. Des assertions totalement fausses, écrit le quotidien. Combien d'habitants dans votre commune interroge Ouest France alors que l'INSEE vient de dévoiler ses derniers chiffres? Des statistiques qui font état de plus de 66,5 millions d'habitants dans l'Hexagone au 1er janvier 2017. Dans l'Ouest, les départements bretons gagnent des habitants alors que leurs voisins normands en perdent. Les Pays de la Loire restent, eux, la locomotive de l'Ouest. À découvrir à la une de Ouest France également ce qui change au 1er janvier. Le prix des lunettes, du tabac, le montant du SMIC. Des changements qui vont avoir des répercussions sur le quotidien des Français. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Passez une belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Tout de suite, vous retrouvez Sabine Marin pour La Livre en Tête. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Sophie, ça marche avec le micro ouvert.
C'est mieux, on entend mieux. Les auditeurs peuvent vous appeler toute la soirée, toujours le même numéro, le 3921.
Rendez-vous avec vous dans une demi-heure pour le prochain point sur l'info.